Bonjour, vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 14 février 1945, Dresde est bombardé. Le carnaval de Dresde s'achève dans la nuit du 13 au 14 février 1945. Soudain, vers 22 heures, des mosquitos de la Royal Air Force lancent des fusées éclairantes. Une nuit d'horreur commence. 245 bombardiers Lancaster surgissent sur la capitale de la Saxe. Ils sont rejoints à 1h45 par 529 bombardiers anglais, puis à 12h par 450 forteresses volantes américaines qui mettent un point final au carnage. La destruction de Dresde fait 135 000 morts. C'est le bombardement conventionnel le plus meurtrier de l'histoire. Les premières bombes tombent sur Dresde le 13 février 1945, à 22h13, pesant entre 4 000 et 8 000 livres. Elles fracassent les fenêtres et arrachent les toits des bâtiments très combustibles de la vieille ville. À 22h30, toute la première ligne d'attaque de l'aviation britannique reprend la direction de l'Angleterre. À 1h23, les Lancaster Blind Illuminator lâchent leur chapelet de fusées. 5 minutes plus tard arrive le chef des bombardiers. Il découvre que la totalité du centre de Dresde est engloutie par les flammes. La colonne de fumée qui s'élève de la cité en feu en obscurcit toute la partie orientale. Il est impossible, même avec les puissantes fusées Illuminator, d'identifier le point de mire à travers les épais nuages de fumée. Aussi est-il décidé de concentrer le gros de la force aérienne sur les zones qui n'ont pas été touchées par l'attaque initiale. Ce deuxième raid prend les habitants par surprise. Les sirènes de la défense anti-aérienne sont souvent muettes. Un pilote d'un Lancaster du groupe numéro 3 témoigne de la violence du bombardement. Il y avait une mer de feu, recouvrant à mon avis à peu près 65 km². On pouvait sentir dans ma carlingue la chaleur qui s'exhalait du brasier. Le ciel avait d'éclatantes teintes écarlates et blanches, et la lumière à l'intérieur de l'appareil était celle d'un étrange coucher de soleil d'automne. Nous étions tellement médusés par le spectacle de la terrifiante fournaise que bien que nous fussions seuls au-dessus de la ville, nous en fîmes le tour pendant de nombreuses minutes avant de reprendre le chemin de retour, subjugués par l'horreur que nous imaginions en dessous. Le martyr de Dresde n'est pas achevé. Une nouvelle force de bombardiers américains, cette fois, est en route. 1350 forteresses volantes et Liberators mènent la troisième attaque en moins de 14 heures. À 12h12, le 14 février, les bombes recommencent à tomber sur la ville dévorée par les flammes de la frappe nocturne. Dresde est presque entièrement obscurcie par une colonne de fumée jaune haute de 5 km et par les émanations qui accompagnent un puissant bombardement incendiaire. Des arbres géants sont déracinés ou coupés en deux. Des foules d'habitants en fuite sont soudain saisies par la tornade et précipitées dans les rues au milieu des flammes. Des pignons et des meubles déblayés après le premier raid aérien sont soulevés par l'ouragan et lancés au centre de la ville en flammes. Les pompiers restent impuissants. la destruction quasi immédiate des communications téléphoniques décide du sort de la capitale de la Saxe. Avec un corps de pompiers de moins de 1000 hommes et un matériel rudimentaire, Dresde dépend de l'assistance immédiate de l'extérieur. La plupart des victimes le sont non pas des centaines de bombes explosives, mais plutôt des 650 000 bombes incendiaires qui dévastent la cité. Aussitôt après les bombardements, le bilan humain est exagéré. À Berlin, les sources officielles situent l'estimation entre 180 000 et 200 000 morts. Quelques jours plus tard, cependant, les autorités responsables des mesures de secours dans les agglomérations bombardées estiment avec plus de modération qu'il y a entre 120 000 et 150 000 morts. Nous retrouvons Historama dans un instant pour la chronique littéraire Un jour, trois livres qui a été préparé comme de tradition par Emmanuel. D'ici là, nous faisons un détour par la chanson avec Enrico Macias qui nous chantait en 1964 « Adieu mon pays ».
J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage. Il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire Un jour, trois livres. Alors, il y en a quatre aujourd'hui exceptionnellement et nous commençons par la préhistoire avec les Néandertaliens, l'âge d'or de l'Europe. C'est signé Marcel Ott aux éditions Odile Jacob. Durant au moins 200 000 ans, l'Europe a été occupée par une population unique, les Néandertaliens, à travers des climats d'une grande diversité. Un tel phénomène est exceptionnel dans l'histoire humaine. L'auteur, spécialiste du paléolithique supérieur de renommée mondiale, Marcel Ott, s'efforce ici d'appréhender cette situation exceptionnel. Il montre que les Néandertaliens avaient mis en place des modes de vie harmonieux et respectueux des équilibres naturels. Ces modes de vie, consommation alimentaire, techniques de fabrication d'outils, chasse, production symbolique et artistique, spiritualité, sont à la source de l'extraordinaire puissance adaptative des sociétés néandertaliennes. Loin d'être figés, sujets à des variations culturelles infinies, ils témoignent que les Néandertaliens avaient élaboré des sociétés dont la sophistication n'avait rien à envier à celle de l'homme moderne. Ces hommes sont aussi nos très lointains ancêtres et dont on a encore tant à apprendre d'eux. Les Néandertaliens, l'âge d'or de l'Europe, c'est signé Marcel Ott et c'est publié aux éditions Odile Jacob. Leçon d'humanité de Pierre Mann aux éditions La Nuée Bleue. C'est l'engagement de toute la vie d'un homme. Celle de Pierre Mann, citons-le. Des peuples autochtones, véritables îlots d'humanité, nous avons beaucoup à apprendre. Avec eux, j'ai noué une relation étroite. Ils sont les vrais gardiens de la vie sur Terre. J'aimerais que leur sagesse guide nos chemins. Pierre Mann a vécu plusieurs vies. Né à Strasbourg, il a sillonné le continent africain, s'est rendu en Amérique du Sud, en Asie, dans les pôles. Il est connu pour ses films documentaires sur les animaux en danger et les peuples en voie de disparition. Le livre intègre une très belle iconographie faite de ses photos et dessins. Il nous raconte ses rencontres incroyables avec les éléphants, les liakaons, les chimpanzés et les rhinocéros, mais aussi avec les impressionnantes femmes d'Afrique et les Bushmen. Il revient sur sa jeunesse en Alsace pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le traumatisme des bombardements qu'il a vécu à Dresde et dont il est sorti miraculé, de ses voyages, de ses rencontres et de ses expériences, il tire de nombreuses anecdotes, mais surtout une philosophie et un rapport à l'homme et à la nature riche d'enseignements. Ce livre offre un voyage parmi les hommes de la brousse, à la recherche des orangs-outans de la forêt de Bornéo, dans les déserts de Namibie ou en Antarctique au milieu des manchots, mais surtout il nous montre la voie de la sagesse, le respect que l'on doit à notre terre et l'infini amour qu'il a pour elle. Leçon d'humanité, au pluriel, c'est signé Pierre Mann et c'est publié aux éditions La Nuée Bleue. Le bateau blanc de Xavier Bouvet aux éditions Le Bruit du Monde. En septembre 1944, les Allemands fuient l'Estonie, qu'ils occupaient depuis 3 ans, tandis que l'Union soviétique s'apprête à envahir de nouveau le petit État balte. Quelques Estoniens vont tenter de s'infiltrer dans cet interstice pour former un gouvernement indépendant et restaurer la République. Ils n'ont que quelques jours pour réaliser cette mission. Un navire envoyé par la résistance en exil doit les sauver de la descente du rideau de fer. À leur tête, l'avocat Otto Tief, retiré de la vie politique depuis 10 ans, soucieux d'accomplir son devoir et de retrouver sa famille à Stockholm. Tief s'engage aux côtés de son ami Yuri Ulloats, dernier premier ministre d'une république condamnée par l'Union soviétique de Molotov et de Staline. Autour d'eux chemine la poétesse Marie Under, prise au piège d'une capitale assiégée, et tous les destins soumis aux décisions impossibles, au renoncement et au déracinement. À travers eux, c'est l'histoire d'un des moments les plus poignants de l'Estonie qui nous est retracé. Le bateau blanc de Xavier Bouvet s'est publié aux éditions Le Bruit du Monde. Et nous terminons cette chronique par Crime connecté de Christian Jacques, le grand égyptologue. C'est publié aux éditions Ixo. Dans une villa sécurisée au bord de la Tamise, la société WHTF termine la mise au point d'un robot chirurgien révolutionnaire, Curator, le patron, un Américain dénommé Silwell, dirige une équipe dans laquelle on trouve une spécialiste chinoise de la biotechnologie, un expert japonais en robotique ou encore une informaticienne anglaise qui en réalité travaille pour les services secrets. Alors qu'il touche au but, Silwell déclenche une action inattendue. Armé de scalpel, les bras de Curator massacrent le malheureux à l'inspecteur Higgins de dénouer cette énigme. Vous l'avez reconnu, il s'agit d'une énième enquête de l'inspecteur Higgins. C'est signé Christian Jacques, c'est publié aux éditions Ixo et c'est intitulé « Crime connecté ». Voilà pour cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. Et c'est en chanson que nous nous séparons, toujours avec Enrico Macias. Nous écoutons « Les gens du Nord ». C'était en 1968.
Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qui n'ont pas dehors. Les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes à ceux qui ont souffert. Les gens du Nord n'oublient pas qu'ils ont vécu des années d'enfer. Si leurs maisons sont alignés, c'est par souci d'égalité. Et les péniches, pauvres ou riches, portent le fruit de leurs efforts. Les gens du Nord courbent le dos lorsque le vent souffle trop fort. Les gens du Nord se lèvent tôt car de là dépend tout leur sort. À l'horizon de leur campagne, c'est le charbon qui est montagne. Les rues des villes dorment tranquilles, la pluie tombant sur les pavés. Et puis la bière les fait chanter. Et quand la fête tourne les têtes, on en voit deux se marier. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Les gens du Nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Thank you.